Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste. Ce soir, Mathilde Monnier.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler tes pépés.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Mathilde Monnier.
Plein de corps, dans plein d'états. Mardi soir, sur la terrasse du Centre National de la Danse, au-dessus du canal de l'Ourcq, non loin de Paris mais pas collé non plus, après les enseignements du matin, les ateliers de l'après-midi, les cours amateurs du soir, les visages sont ouverts. C'est le début de Camping, une des manifestations phares que vous avez créée, Mathilde Monnier, pour le CND. Pendant deux semaines, des élèves d'écoles de danse du monde entier se retrouvent, des amateurs aussi, échangent des pratiques, parlent, dansent ensemble, boivent des bières au soleil couchant, bref, c'est comme un merveilleux terrain de camping, mélange de petites communautés, diversité des installations, ouverture sur l'extérieur, sens de l'accueil et excellence de l'enseignement en plus. Ce sera votre dernière édition en tant que directrice du Centre National de la Danse. Mathilde Monnier, vous quittez Pantin après 5 ans et demi de direction. Catherine Tsekenis prendra votre suite. Camping, c'est jusqu'au 28 juin à Paris, du 24 au 28 juin à Lyon et en novembre à Taipei. On pourra voir votre nouvelle pièce création au Théâtre Vidi Lausanne, ça s'appelle Please Please, please, on en parlera tout à l'heure, ça ouvre le 5 septembre et ensuite c'est parti pour une grande tournée. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Si vous voulez bien, on commence par Merce Cunningham.
Dans la danse classique, l'espace est comme perspective dans la peinture, je crois. Il y a le centre d'intérêt dans le théâtre conventionnel et tout ça est en... du centre, oui, ou entre le centre. Mais pour moi, tout le monde est le centre. Vous êtes le centre, je suis le centre, Nicole est le centre. C'est chaque personne est un centre, et c'est possible de penser que l'espace comme ça, avec c'est dans avec les étoiles, tous sont les centres. Chaque personne est un centre, et où je trouve moi-même, ça c'est un centre, ou peut-être un autre danseur, la même idée, où il se trouve, ça c'est le centre pour lui. Et ça change l'idée de l'espace. Ça, pour moi, ça fait une situation libre. Et c'est possible, comme ici, comme dans le jardin, les gens là et madame qui marche là. Mais elle est centre, nous sommes le centre ici. Et ça change l'idée. Il n'y a pas un centre, mais il y a beaucoup, beaucoup de centres.
Mathilde Monnier, c'est bien de commencer par réinterroger les mots. Ici, Merce Cunningham, 1976, le centre. Et en fait, on dit comme ça le Centre National de la Danse à Pantin ou un centre chorégraphique national. Et puis, c'est rare finalement qu'on se dise, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit le centre? Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'entendre la voix de Merce Cunningham 1976 pour vous?
Alors c'est très émouvant, d'abord parce que c'est vrai que Merce a joué un rôle très particulier dans mon histoire. C'est peut-être grâce à lui que j'ai commencé à danser professionnellement, puisque je suis allée aux États-Unis et j'ai eu la chance de travailler dans son studio, non pas dans sa compagnie, mais dans son studio. Et quand j'écoute ses paroles... je vois toujours à quel point c'est des paroles presque d'aujourd'hui. Elles ont plusieurs années, mais Merce était tellement en avance sur son temps. Et cette idée d'un centre qui est le centre de chacun, c'est ça peut-être aussi l'idée du Centre National de la Danse, c'est-à-dire que ce serait pas juste le lieu de convergence ou le lieu, bon, même si c'est bien sûr le ministère de la Culture, mais c'est un centre pour chacun. C'est ça que j'ai aussi voulu dire en venant. au Centre National de la Danse, de dire, ben voilà, ce lieu, il est à vous, il est aux professionnels, mais il est aussi au public, il est aussi aux enfants, il est aussi pour les amateurs. Et c'est pour ça qu'on avait fait une grande affiche où on avait mis « Je suis un centre », qui est de partout dans tous les murs du Centre National de la Danse.
Et qu'on voit quand on se promène en vélo ou en marche dans Pantin, c'est très fort en effet de plaquer ces mots-là sur les murs de Merce Cunningham, je suis un temple, parce que c'est une hypothèse en fait, et ça peut être aussi une hypothèse en danse. Qu'est-ce qu'on dit quand on formule l'hypothèse qu'on est un centre, Mathilde Monnier?
Alors, bon, ça c'est effectivement ce que Merce a révolutionné ce rapport à l'espace, il l'explique bien dans cet extrait, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait un espace qui était l'espace de la danse du ballet classique, un espace royal avec effectivement une sorte de déterminisme des rôles, avec des rôles secondaires, avec des solistes, l'étoile, une convergence du centre. Or lui, il a démocratisé ce métier du danseur, il l'a rendu beaucoup plus égal, où il y a plus de solistes, tout le monde est lui-même et chaque personne sur un plateau a son importance. Donc je crois que sans Merce, je ne sais pas où serait la danse aujourd'hui. Je pense qu'il nous a fait faire un pas en avant en tout cas.
Parce qu'il ne dit pas « je suis le centre ». Non. Il dit « je suis un des centres », en fait. Donc, il prononce aussi l'idée d'un éclatement possible des présences à la fois sur un plateau, mais aussi dans le monde. Vous dites « je suis venu pour dire un peu ça à Pantin ». C'était quoi cette décision pour vous? Sachant que vous veniez d'une grande période à Montpellier, qui était aussi un autre centre, Mathilde Monnier.
Oui, oui, oui. Alors, c'est maintenant, je regarde ça, c'était il y a à peu près 6 ans... En fait, ça faisait plusieurs années que j'y pensais, tout simplement, et j'ai commencé les dernières années à Montpellier à écrire des idées comme ça que j'avais, si un jour je voulais changer, si je voulais quitter le centre chorégraphique de Montpellier. Et c'est vrai que le Centre National de la Danse m'apparaissait comme quelque chose à la fois d'extrêmement puissant, avec ce que j'aime beaucoup au Centre National de la Danse, c'est que c'est pas juste un endroit de production ou de visibilité des spectacles, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un lieu pour la profession.
C'est même rarement ça, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est rarement un lieu de diffusion de spectacles, le Centre National de la Danse à Pantin.
Oui, parce que d'abord, la salle est une salle de 140 places. Donc, c'est aussi un lieu d'expérimentation, de recherche, d'archives, de mémoire, de formation et d'éducation artistique. Et c'était tout ça qui m'intéressait. C'est-à-dire donner une vision beaucoup plus large du métier. Et de dire, on est sur un plateau, on danse sur un plateau, le public nous voit à ce moment-là, mais derrière tout ça, c'est beaucoup plus grand, le métier est beaucoup plus grand, il a une autre place dans la société, qui est une place qui peut être par exemple sur la santé, sur la ressource du métier. Donc c'est aussi tous ces aspects-là que je voulais développer. Parce que ça fait partie de ce qu'un danseur a besoin. Au-delà de briller sur scène, finalement, c'est une carrière, c'est comment est-ce qu'on voit la carrière d'un danseur. Et le CND, finalement, il correspond à tous les besoins du danseur, du moment où il est étudiant jusqu'à le moment donné où il va peut-être passer à la retraite. Et on peut répondre à cette amplitude, cette timeline du danseur, ce parcours incroyable, même jusqu'à la reconversion, puisqu'effectivement, on travaille aussi sur ces questions.
C'est aussi concomitant avec des moments où on se pose des questions sur la formation des danseurs, des chorégraphes, sur des formations qui sont diplômantes. Est-ce qu'on peut être diplômé chorégraphe? On peut être diplômé danseur, mais quand, comment? En Europe, ça se passe pas partout pareil. C'est intéressant parce que tout ça dit aussi que dans l'histoire de la danse, les choses, elles ont été souvent floues pour les interprètes ou pour les chorégraphes. Floues et libres.
Oui, alors c'est vrai que c'est un champ relativement nouveau, vous le dites très bien, parce que c'est pendant des années, on s'est pas tellement occupé de toutes ces questions, diplôme pour chorégraphe, aujourd'hui il y a un seul master, il est à Montpellier, bon c'est vrai que j'ai eu la chance de le créer, il y en aura d'autres dans l'avenir, le ministère va en ouvrir d'autres, mais il y a pas tellement d'écoles en France, il y en a un peu plus en Europe, c'est vrai que pour tout le monde c'est flou, mais c'était aussi flou pour la profession. Et en termes de régulation du métier, d'outils pour le métier, il y a énormément de choses à développer. Et bon, c'est pas forcément un diplôme qui fait un chorégraphe ou qui fait un artiste, mais un diplôme permet parfois une reconversion, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des parcours d'artistes qui sont ils peuvent venir de la mode, de l'architecture, et puis être danseurs à un moment, ils peuvent venir de la musique, et donc ils ont toujours cette capacité de de changer de métier ou d'avoir plusieurs casquettes. Beaucoup passent des masters en théorique, peuvent enseigner à l'université après, donc c'est génial. Ça c'est très nouveau parce que on considère plus qu'un danseur, il est juste un corps pendant 20 ans et que après il a plus de pensée. Donc tout ça, ça a beaucoup, beaucoup évolué assez rapidement ces dernières années. Et je trouve ça, on est même à l'aube seulement de ça. Notamment, par exemple, toutes les questions aujourd'hui, de la question du corps dans la société. Un danseur a des savoirs qui peuvent complètement trouver des espaces à l'hôpital, des malades, sur d'autres types de personnes, parce qu'il sait des choses qu'il peut transmettre.
On y reviendra, mais c'est en effet un moment assez intéressant, Mathilde Monnier, où des savoirs de la danse ou du corps peuvent peut-être infuser, c'est lent, mais peuvent peut-être infuser dans le social. Alors vous disiez les raisons pour lesquelles je suis arrivée à Pantin, les raisons pour lesquelles vous en partez, ce serait quoi?
Bon, c'est assez simple en fait. En 6 ans, en 5 ans et demi, on a le temps de faire pas mal de choses. Je les ai faites. J'ai été un peu au bout du rêve que j'avais même plus loin. Je pense que j'aurais jamais imaginé... qu'on arriverait à faire tout ce qu'on a fait. Et quand je dis « on », c'est toute une équipe, parce qu'on est à 98 personnes qui travaillent à Pantin, c'est une grosse maison. Et j'aime bien partir quand les choses sont faites, voilà. Et puis aussi, je voulais revenir à ma carrière d'artiste et avoir encore le temps d'être une artiste pendant encore quelques années. Donc c'est le bon moment, tout simplement.
Ça fait quoi de laisser une institution comme ça, justement 98 personnes, mais aussi des murs, c'est un gros bâtiment, le CND. C'est marrant parce que quand vous parliez de Montpellier, vous disiez aussi « j'adore arriver dans cet endroit quand c'est le matin, c'est l'aube, qu'il n'y a personne ». Ce sont aussi des lieux, ces centres-là. Alors qu'est-ce qu'on laisse derrière soi en laissant ce gros bâtiment? Pas définitivement, mais...
On laisse quand même beaucoup de choses qui sont en place. Aujourd'hui, moi je vais partir avec une certaine tristesse, mais en même temps, on part toujours avec une certaine tristesse. Voilà, c'est à la fois, ce bâtiment, il est à la fois lourd et léger, c'est du béton, c'est magnifique, c'est un lieu incroyable, il faut absolument venir le voir, il y a plein d'écoles d'architecture qui viennent, c'est une espèce d'exemple d'architecture fait par Jacques Callis, dans les années 70, donc déjà le bâtiment, il est complètement dingue. Et puis c'est un bâtiment qui est vivant aujourd'hui. Donc moi je suis juste contente pour ça parce que n'importe qui peut venir manger, peut rentrer à la médiathèque, venir voir des films. Il y a beaucoup de choses en gratuité. Donc on laisse. Je sais pas. Vous savez, c'est difficile de regarder son propre héritage. L'histoire le dira, on va dire. On verra plus tard ce qu'il en sera.
Je m'amusais à comparer ce nom que vous avez choisi pour ces différentes manifestations, Paris et Pantin, mais donc Lyon et puis Taipei, camping. Est-ce que c'est qu'un bon terrain de camping? Un bon terrain de camping, il y a un sens de l'accueil. Il y a quelque chose qui fait que on plante sa tente et puis, on a très vite envie de, s'allonger dans l'herbe, aller voir comment c'est les douches, voir s'il y a quelque chose où on peut faire son barbecue quelque part. Créer des centres pour la danse, c'est créer des lieux. C'est quoi cette science-là, Mathilde Monnier? Comment on crée des lieux? Avec quel genre d'ingrédients?
En fait, ça, c'est assez facile pour les danseurs de créer des lieux parce que un de nos outils, c'est l'espace. Donc c'est vrai que moi en tout cas j'ai toujours cette appétence sur la question des espaces, souvent des espaces vides d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis très très sensible à la question de l'espace, à la question de l'entrée, à la question de l'accueil, à la question de que les gens soient bien, qu'ils soient bien assis, qu'ils puissent s'allonger, parce qu'un danseur on doit s'allonger dans la journée. Voilà, des choses qui finalement peuvent être des choses qui paraissent des reliées à l'entreprise ou aux conditions de travail, mais j'y suis très très sensible. Et donc on a aussi pensé le lieu, avec la façon dont le corps d'un danseur, ce que le corps d'un danseur a besoin. Comme vous le disiez, s'allonger, s'appuyer contre un mur, avoir des beaux espaces aussi. Et je crois que le CND aujourd'hui il est à l'image de ça parce que il y a des espaces différents, on peut faire plein de choses différentes. Il y a pas de piscine, c'est vrai, comme dans un camping, ça manque peut-être.
Non, moi, je prends toujours les campings sans piscine. C'est hyper bon signe quand il n'y a pas de piscine.
Bon, ben voilà, on a un camping sans piscine, mais il y a le canal de Lourdes en face. Un jour, on s'y baignera peut-être.
Il est baignable en plus. Parlons un petit peu de camping et de cette manifestation. Donc, vous disiez, le CND, c'est un lieu vivant. Il est encore plus vivant quand même, Mathilde Monnier, pendant ces deux semaines-là, deux grandes semaines d'enseignement et de rencontres. Vous dites souvent que c'est l'une des choses à laquelle vous tenez le plus, camping. Alors, c'est quoi?
Alors, camping, bon, c'est un moment un peu privilégié parce que c'est 29 écoles, ben, cette année. 29, on a démarré à 17. Maintenant, c'est 29 écoles et universités d'art qui viennent du monde entier. Donc, c'est aussi cette nouvelle génération qui se rencontre. Alors, camping, c'est plein de choses différentes. Hein. C'est ça qui est génial, c'est que c'est à la fois un networking, c'est-à-dire un endroit où
de réseau,
c'est un réseau à plein, avec beaucoup de ramifications, parce que c'est un réseau pour que les artistes se rencontrent entre eux, bien sûr, mais aussi se connaissent un peu, voient l'artiste de leur rêve, ils ont envie de travailler, bah, avec Elia Wollaston, par exemple, et ben, ils peuvent la rencontrer en vrai, passer du temps avec elle, et puis, c'est un lieu où il se passe des choses qu'on ne contrôle pas, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est pour ça que c'est un lieu d'occupation. C'est-à-dire, c'est un moment où le CND ne nous appartient plus, il appartient à la nouvelle génération. Et il se passe plein de choses. Il y a des workshops le matin où il y a une espèce de troc pédagogique entre eux. Ils prennent des cours avec des artistes, ils voient des spectacles, ils font des siestes philosophiques, ils voient des films, il y a des balles, il y a des parties, il y a des fêtes. Enfin, voilà. C'est tout ça, camping.
Est-ce que vous avez reçu ça, vous? Jeune danseuse ou jeune chorégraphe ou jeune interprète? Est-ce que c'est un genre de cadeau qu'on vous a fait aussi?
Ben, ça n'existait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi fait ce que je n'ai pas reçu. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on procède. Parce que, bon, il y avait pas ces grandes manifestations. Après, il y a une manifestation que j'aime beaucoup, que sur lequel je me suis beaucoup appuyée comme un peu un exemple. C'est Impulse Dance à Vienne, où j'étais invitée très très tôt. Et c'est une sorte de aussi grand campus, workshop d'été qui est incroyable. J'ai pris un peu l'exemple là-dessus. Mais moi, c'est vrai qu'en tant que jeune danseuse, si, il y avait quand même c'était un peu des stages avec des maîtres. Il y avait ce rapport aux maîtres. Donc si, ça existait, les grands stages d'été. Mais voilà, il n'y avait pas cette notion de rencontre, d'échange à cette échelle-là, en tout cas.
De la transmission, de la pédagogie aussi, même si c'est très pluriel comme manifestation, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de camping. Comment on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne? Vous dites quoi aux chorégraphes ou aux personnes que vous invitez? Vous avez quoi comme demande à ces gens-là?
Alors, on a une demande très précise. Moi, je leur dis toujours, il faut que vous veniez avec votre recherche actuelle. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande, c'est de partager, voilà, quel est aujourd'hui vos enjeux de travail, sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Et c'est ça que vous allez partager, voilà, avec tous ces artistes, tous ces danseurs. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais, ils sont aussi dans leurs propres préoccupations d'artistes. Et c'est cette voilà, c'est ce privilège là finalement qu'on offre aussi aux jeunes artistes, d'être avec eux dans la recherche de ces artistes.
Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez personnellement faire?
Oui, bien sûr, moi j'aime, vous voulez dire enseigner,
oui, enseigner,
partager,
transmettre,
oui, ben, je l'ai fait toute ma vie, hein.
Oui, voilà, et être en atelier ouvert un peu, quoi.
Bah, moi, je l'ai fait toute ma vie. J'ai commencé à danser et je crois que 6 mois après, j'ai commencé à enseigner. Donc,
pourquoi il y a quoi là-dedans?
Ben parce que finalement, en enseignant, on apprend, c'est-à-dire à la fois le prof apprend autant que les élèves, et puis on commence à structurer aussi. C'est une manière aussi de mettre des mots sur son travail, de le regarder avec un peu de distance. Donc, on apprend beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est maintenant on passe des concours, on passe des diplômes pour enseigner, donc on enseigne au bout de 6, 7, 8 ans de danse, voilà, mais je crois que c'est très important que ces danseurs soient tout de suite dans l'échange.
Vous avez trouvé quoi comme façon de faire? C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a l'enseignement à proprement parler, puis il y a la manière dont on est en création, qui n'est pas un enseignement, mais qui est aussi une transmission, qui est aussi un moment où il faut dire un peu ce à quoi on pense. Vous avez trouvé quoi comme façon de faire qui s'avère avec les années une bonne façon de faire, Mathilde Monnier?
Mais je crois que, bon, bien sûr, on crée des méthodes, et avec les années, il y a quelque chose qui se, voilà, qui se met en place d'assez clair, mais moi, j'ai une pédagogie qui est toujours très en évolution, qui dépense. Je parle à partir de beaucoup de questions que je pose ou que je partage avec des danseurs. Alors bien sûr, il y a de la pratique, on fait beaucoup de pratiques, on fait beaucoup d'exercices. Je crois beaucoup à l'exercice. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices parce que voilà, c'est un peu comme au piano, faut faire ses gammes. Il y a à la fois la partie réflexive, mais le corps aussi réfléchit par lui-même. Donc il faut donner au corps ce temps de la réflexion qui est un temps où il faut répéter, il faut refaire, il faut que ça rentre dans le corps. Donc je passe beaucoup par la pratique.
La marche est effectivement, avec la verticalité du dos, la verticalité de la colonne vertébrale, le mouvement le plus simple, de la human, proper to human posture de l'être humain. La marche est la façon la plus simple d'organiser non seulement mon espace mais aussi mon temps. Les paramètres de temps, pour le dire comme en musique orientale, on peut marcher très lentement, très vite ou bien au milieu. Marcher très lentement est une chose qu'on fait de moins en moins. Il paraît que, et je crois que, il paraît que à la campagne, dans une forêt, on marche beaucoup plus lentement qu'en ville. Le rythme d'une marche est différent qu'il y a 100 ans dans les villes. C'est notre rapport. C'est propre à la danse, puisqu'il, dans toutes les définitions possibles de ce que c'est la danse comme embodied abstraction, l'abstraction, c'est aussi defying gravity, c'est les lois de la gravité. Marcher, c'est un changement de poids. To walk very slowly, de marcher très très lentement, je vous propose de faire l'expérience, de faire les 4 mètres et de qui vous amène jusqu'à la porte. Si vous prenez un quart d'heure pour faire ça, ça va non seulement changer votre perception de cet espace, mais aussi la perception du temps et la perception de votre propre corps.
C'est Anne-Thérèse Kersmaeker qui se traduit elle-même au micro de Laura Adler en 2018 dans L'Heure Bleue. Pour parler de la marche, vous disiez Mathilde Monnier, moi je crois beaucoup à l'exercice parce que c'est aussi une manière de faire penser le corps par lui-même. Et la marche, c'est quelque chose qui s'est retrouvé, qui se trouve dans beaucoup de travaux de différents chorégraphes, mais qui s'est retrouvé parfois au cœur de votre travail, de votre manière de chercher. Pour les mêmes raisons que celles exprimées par de Kersmaeker, pour des raisons qui sont propres à l'humain.
Oui, bon, c'est propre à l'humain de marcher à la verticale. Bon. Et moi, je vois toujours la marche comme le début d'une danse. C'est-à-dire que c'est marcher, c'est déjà danser, c'est déjà une signature, une identité, une posture envers le monde. Marcher, c'est déjà s'affirmer dans le monde. Donc c'est beaucoup de choses se disent à travers quand on regarde quelqu'un qui marche. Moi, je fais souvent cet exercice pour mes danseurs. Je les fais rentrer dans le studio et marcher très lentement, et ben même en audition, ça peut être un exercice d'audition, de juste marcher, on est capable d'engager un danseur suivant la façon dont il marche.
Voilà. Vous diriez en regardant quoi, en voyant quoi?
Tout, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que dans la marche, on voit tout. C'est-à-dire on voit effectivement ce que dit Anne-Thérèse, c'est-à-dire effectivement le rapport à la gravité, c'est-à-dire comment est-ce qu'un corps tient debout, mais on voit aussi ce qu'il regarde. Parce que dans la marche, il y a aussi la question du regard. Et le regard vient, alors là, ça serait plus compliqué, un peu plus loin à expliquer, mais anatomiquement, il vient aussi de la façon dont le cou, la tête, est reliée à la colonne vertébrale. Donc, on voit tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on lit la globalité d'un corps en marchant. C'est-à-dire, c'est pas un corps statique, c'est un corps qui est déjà en mouvement. Donc, on voit la coordination, la synchronisation des mouvements, la relation, la relation au sol, l'élévation, on voit tout.
Et alors, vous cherchez quoi? Vous cherchez quelque chose qui marche bien? Vous cherchez un bon fonctionnement de tout ce bazar? Ou vous cherchez des singularités, Mathilde Monnier? Ou les deux, d'ailleurs. On peut être
très bien fonctionner. Oui. Ça peut être aussi une marche gauche, quelqu'un de maladroit, mais qui a une espèce d'aisance. Non, il n'y a pas de critères, il n'y a pas la marche idéale. Ça, c'est la première chose que je dis, d'ailleurs, quand je fais cet exercice, c'est que ne cherchez pas dans la norme. C'est-à-dire, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Il y a des gens qui sont complètement tordus, qui sont des danseurs incroyables, qui marchent très bien. Ils marchent tordus. On marche tous un peu tordus. Et c'est notre histoire, la marche. C'est-à-dire que, en regardant quelqu'un marcher, on voit l'histoire de son corps. On voit beaucoup de choses. Et on sait le lire en même temps.
Est-ce qu'on peut lire sa propre marche?
Alors ça, c'est la chose la plus difficile. Ça, c'est compliqué. Moi-même, j'ai du mal. Par contre, j'ai des espèces d'exemples où mes danseurs m'imitaient. Et d'un coup, je les regardais complètement étonnés. Je dis, ah bon, je marche comme ça. Oui, c'est un peu comme... je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Je marche pas aussi tordu que ça.
Quoi, c'est difficile de se regarder danser ou c'est difficile de voir quelque chose quand on danse, soi-même?
C'est difficile de se voir. Bon, moi je trouve que c'est pire de s'entendre, mais c'est difficile. La voix, je trouve ça, c'est la chose la plus difficile. Se voir danser, oui, c'est... Ben, d'abord, on se voit quand même quand on danse, même si on se regarde pas, on se voit, on se sent. Donc on a une conscience de son corps. Après, est-ce qu'on a une conscience de ce qu'on produit? C'est ça, c'est tout cet écart entre ce qu'on perçoit et ce qu'on produit. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille quand on est danseur.
Vous faites vous-même les exercices que vous proposez aux autres, par exemple marcher dans un espace, marcher très lentement pour reprendre l'exercice proposé par Anne-Thérèse de Kersmaeker, quelque chose qui vous arrive pour vous mettre en route dans une séance de travail?
Bien sûr, on fait les exercices. De toute façon, il n'y a que ça comme règle. Si on les a pas fait sur soi, après on peut les mentaliser, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut, c'est pareil, encore une fois, il faut passer par son propre corps pour aller vers le corps des autres. Donc si, moi je marche, je fais
tous les
exercices.
Ça suppose très bien le connaître.
Oui, bon, mais des années à connaître son corps, c'est pas parce qu'un danseur connaît son corps, mais plus ça va, plus on apprend sur son corps. C'est un long chemin. Je sais pas si on peut tout connaître d'un corps. Je sais pas ce que ça veut dire cette phrase.
Mais ça passe par quoi justement? Prendre du temps pour apprendre à connaître son corps, c'est quoi? Ça se passe par quelle pratique? Parce que on peut très bien danser toute sa vie sans vraiment connaître son corps, si?
Tout à fait. Ou en tout cas, on construit son corps. Alors il y a toujours pareil cette différence entre la construction d'un corps. Un danseur, il construit son corps. Il le construit techniquement, il construit des muscles, il change même son corps, il le transforme, c'est incroyable. On voit parfois des choses incroyables, mais ça ne veut pas dire qu'il le connaît particulièrement, c'est-à-dire qu'il y a aussi la part de la pathologie, et ça c'est encore un autre versant de la connaissance du corps. Moi c'est des choses que j'aime beaucoup, qui m'intéressent beaucoup, c'est-à-dire effectivement il y a la question de la santé, il y a la question d'un corps et quelque chose d'organique, donc cette partie-là elle est beaucoup plus longue.
Oui, vous disiez d'ailleurs, on pourrait expliquer le regard, le positionnement du regard par l'alignement de la nuque, la manière dont on positionne sa tête. Ça veut dire que cette connaissance anatomique, elle a toujours été de pair avec votre pratique de la danse, Mathilde Monnier, ou c'est venu avec les années?
Alors, c'est venu avec les années tout simplement parce qu'à l'époque, on n'enseignait pas ça. Enfin, moi, j'ai déjà pas fait d'école, donc j'ai appris de manière complètement empirique mon métier. J'ai appris en regardant, beaucoup, beaucoup en regardant. J'ai appris, j'ai eu une toute petite période de formation. J'ai commencé presque tout de suite à danser. On m'a projeté dans des compagnies, donc j'ai dansé à 18 ans. Et je me suis formée après. J'ai pas une grande connaissance anatomique, mais j'ai beaucoup fréquenté la médecine et j'ai travaillé à l'hôpital. Et donc ça m'a aidée. J'ai appris comme ça. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a une compréhension théorique mais que forcément on connaît son corps.
Par exemple, une des masterclass de camping cette année est donnée par une ostéopathe qui va travailler sur des pratiques tissulaires très fines, des touchés. Je dis ça parce que vraiment dans la file pour le coup pour aller acheter une bière, j'entendais une toute jeune danseuse de 20 ans dire son émerveillement à avoir travaillé sur des phalanges pendant 25 minutes. Elle était bouleversée de ce qu'elle avait senti. Ça pourrait paraître pour plein de personnes quelque chose d'étrange de dire on fait toute une manifestation sur la danse, puis on a aussi une invitation à une ostéopathe.
Oui, mais c'est très important. C'est-à-dire que effectivement, grâce à toutes ces nouvelles techniques, les ostéopathes, mais les techniques somatiques, on a beaucoup, beaucoup appris sur comment fonctionne un corps et comment est-ce qu'il fonctionne dans le minimal, le petit aussi. C'est-à-dire, bien sûr, pour danser, il faut aussi... Pour danser grand, il faut savoir danser tout petit. Il faut aussi, voilà, ou danser très lentement. Anne-Thérèse parle de la lenteur. Et ça, c'est aussi les techniques somatiques qui nous l'ont appris, ou les techniques d'arts martiaux, ou le yoga, ou des choses comme ça. Donc ça fait partie des connaissances qu'on a depuis quelques années, qui sont très très importantes.
Alors d'abord, dans le temps, celui qui le pratique éprouve un bien-être, simplement un bonheur à vivre, à marcher dans la rue, il se sent léger, il se sent reposé d'avance. Avant de faire des efforts, il a plus de stabilité. Après son effort, il est moins fatigué. Il se défatigue presque à volonté. Il ne descend plus jamais en dessous d'un certain seuil d'abattement, de manque d'appétit à vivre. Mais tout de suite, immédiatement après, ça se chiffre en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, suivant les différentes sortes d'apprentis qui peuvent faire du yoga, mais immédiatement après cette espèce de bien-être, de bonheur à vivre, il lui pousse des formes de curiosité intellectuelle.
Tiens.
Ils viennent là peut-être pour entretenir physiquement leur corps en se disant c'est moins fatigant que de la gymnastique et puis c'est à la mode, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Et dans la mesure, c'est assez curieux d'ailleurs, dans la mesure où ils ne sont pas ambitieux, où ils viennent, pour se détendre, disons carrément pour se détendre. Ils sont fatigués, ils ont envie de tout oublier, ils viennent, ils font une heure de yoga, ils oublient tout. Ils pensent que c'est là tout. Mais tôt ou tard, ils débouchent sur autre chose. Du moment qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien, leur quotidien ne leur suffit plus. Ils commencent à poser des questions. Mais pas forcément des questions d'ordre métaphysique. Ils ne vont pas vous dire « qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que la mort ?» Mais ils vont me dire « Madame, vous savez... avant de me marier, par exemple, une mère de famille, avant de me marier, je faisais des études d'allemand. Vous ne me trouverez pas ridicule, j'ai 52 ans, j'ai envie de recommencer. » Mais oui, madame, allez-y. Eh bien, elle ne se sent pas ridicule, elle y va, et puis elle fait des études d'allemand, elle passe des licences, elle me dit 3 ans après, je commence l'espagnol, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis voilà.
C'est merveilleux ça. Et puis voilà, 1966, Eva Rochepol qui dit que d'une espèce de, comme ça, peu d'ambition à venir pratiquer le yoga parce que c'est à la mode, 1966, on arrive à des curiosités intellectuelles. On vous fait écouter cette archive évidemment parce que dans la bande dessinée que François Hollislager fait à propos de vous, avec vous, à propos de votre travail, en travaillant, bref, c'est vraiment un livre très beau, très hybride. Il dessine une scène où il entre dans votre salle de travail à Montpellier et vous êtes la tête en bas en train de faire du yoga et vous lui dites « j'en fais tous les jours ». Mathilde Monnier, qu'est-ce que vous répondriez plus de 50 ans plus tard à Eva Rochepol que c'est toujours vrai, que faire du yoga ouvre des surprises de curiosité intellectuelle ?
Oui, je répondrais, alors moi je fais du yoga maintenant depuis presque, je sais pas, 16 ans. Donc c'est ma pratique, alors je ne vais pas dire quotidienne parce que je n'y arrive pas toujours, mais c'est une pratique qui fait partie maintenant de mon monde. Moi je fais un yoga assez dynamique, le Ashtanga yoga, et je crois qu'effectivement, alors c'est très très à la mode maintenant, mais c'est
encore
pas grave.
Plus qu'il y a 50 ans.
Beaucoup plus, c'est plus qu'à la mode, c'est un marché. Mais ce qui est important dans le yoga, c'est avec quel prof on travaille. C'est comme partout, c'est-à-dire c'est pas les disciplines qui sont importantes, c'est l'enseignant qui est important. Mais c'est vrai que donc si on a un bon enseignant, cette pratique ouvre beaucoup de choses parce qu'elle vous déplace dans le temps, elle vous apporte. Elle vous apporte une meilleure conscience de soi. Elle vous apporte aussi beaucoup beaucoup d'outils et elle vous apporte un espace pour vous tous les matins, qui est un peu votre espace privilégié où vous êtes un peu en dehors du monde, sans les téléphones portables, dans un autre rapport au temps. Alors après il y a plein de yoga aujourd'hui qui font plein de choses à plein de gens, donc chacun peut trouver sa forme à soi de yoga, mais quand même c'est la partie notamment de la méditation est importante parce que on n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui pour être un peu avec soi-même sans être dans un temps spirituel ou je sais pas ou religieux ou je sais pas quoi, et là on est juste avec soi-même, donc c'est assez simple en fait le yoga, c'est être un moment avec soi-même.
Quand on entend dans cette archive dire que d'un seul coup on ne se satisfait plus des choses quotidiennes, qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, qui sont inattendues, est-ce que vous en avez vécu des moments comme ça, Mathilde Monnier, en les rattachant ou pas avec le yoga, mais juste qu'une pratique corporelle à un moment donné est faite dans le temps et dans la répétition, vous déplace tellement que des questions surgissent par le corps?
Oui, ça c'est notre, enfin c'est, je dirais que je le vis presque tout le temps. Là je danse un peu moins, mais quand j'ai des pratiques de danse ou de création, d'ailleurs c'est beaucoup la création qui déplace. La pratique aussi, mais je dirais que pour moi ce qui me déplace plus c'est effectivement voilà, d'être dans des périodes de nouvelles, de création. Il faut partir sur d'autres formes, il faut inventer d'autres formes. On est toujours étonné de ce que finalement la danse, le corps invente. Moi, je suis toujours fascinée quand je regarde quelqu'un danser, de voir à quel point finalement ce que ça produit comme possibilité d'interprétation, alors que c'est pas des mots, alors que c'est toujours quelque chose d'absolument fascinant. Et oui, à cet endroit-là, on reste toujours étonné.
Pour le travail qui vient, là, ce qu'on pourrait avoir en septembre, Please, 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 vous avez travaillé comment, à partir de quelles questions, à partir de quels déplacements, Mathilde Monnier?
Donc c'est une pièce que nous faisons avec deux autres artistes, donc Larry Bott, qui est une artiste avec qui j'ai déjà travaillé, sur une pièce qui s'appelait Gustavia, et puis un metteur en scène qui s'appelle Thiago Rodriguez, qui est donc metteur en scène portugais, que j'aime beaucoup. Et donc ça va être une pièce où il y a une bonne partie de texte, et en fait c'est une pièce sur un dialogue entre une mère et sa fille. Donc nous sommes les deux mères, Maria et moi, et alternativement mère et fille, un peu sur le monde à venir de demain. En fait, c'est sur le monde à venir de demain. C'est le texte, c'est comme une espèce de message lancé qui serait lancé pour quelqu'un dans 50 ans. C'était un moment où on serait plus là, où on voudrait à la fois dire des choses, voilà, à nos enfants sur peut-être le monde un peu terrible qu'on est en train de leur laisser. Et l'enfant, la fille nous répond en nous faisant pas mal de reproches sur, voilà. Donc c'est aussi une réflexion sur cette génération que sur le fond j'attendais depuis des années et qu'on commence à voir apparaître, qui commence à se révolter et qui commence d'une manière très très intuitive et très très jeune à dire ben voilà qu'on leur a laissé un monde trop pourri et qu'elles ne veulent pas de ce monde-là et que je suis complètement touchée par voilà la génération des Greta, la jeune suédoise qui a cette forte intuition que si eux ne font pas quelque chose, personne ne le fera à leur place.
Est-ce que c'est un texte que vous avez écrit ?
Non, c'est un texte que Thiago Rodriguez a écrit. Alors, on lui a apporté pas mal d'éléments. Mais c'est un texte qui est en cours d'écriture, parce qu'on est encore en création. C'est un dialogue. C'est un dialogue.
C'est marrant, finalement, cette récurrence de la question de la transmission, du dialogue avec les générations suivantes, de l'enseignement, Mathilde Monnier. À bien des égards, ou même de la filiation, sont des choses qu'on peut retrouver dans votre travail comme ça. Est-ce que c'est des récurrences que vous observez, dont vous êtes consciente, ou simplement vous laissez faire?
Je laisse faire. Non, je veux pas être trop consciente, mais là, je crois que c'est encore plus, peut-être que c'est la première fois où ça devient un sujet de création. Donc ça a été toujours un peu sur le côté. Mais oui, là, c'est une chose importante, parce que je pense qu'on a à trouver quand même des espaces de réconciliation, parce que je pense que dans l'avenir, on a cette responsabilité d'aider cette génération qui va sans doute avoir pas mal de difficultés avec le monde de demain.
Ou hyper bien s'aider elle-même.
Oui, bien sûr, elle s'aidera elle-même, mais je veux dire, on est aussi là, on en est des adultes aussi là pour être à côté d'eux. Transculture, Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Mathilde Monnier.
Love me, please love me, je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? À me voir souffrir. Si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. suis fou. Je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui.
Le corps, c'est-à-dire le mode d'être, en général, l'être au monde, le corps européen, occidental, est un corps qui s'abîme à une vitesse prodigieuse, à cause du travail, du nouveau rythme du travail, à cause de la gigantesque déportation des paysans, c'est-à-dire de ceux qui étaient sur la terre, dans les villes, dans les usines, dans les centres industriels, puis à cause ensuite, dans les expériences guerrières, devenues militaires, à cause des déportations politiques, des emprisonnements, de la torture, de l'extermination, de masse, etc. Bon, le corps occidental est totalement esquinté. Et justement, surgissent des expériences où on assiste à une espèce de, non pas de glorification du corps, mais d'attention portée à ce qu'est un corps et ce que ce corps signifie comme mode d'habiter, comme vous dites, moi je dirais aussi bien comme mode de pensée. Donc la danse serait une espèce d'utopie, de rêve de sortie de cet enfer où le corps est devenu, comme dit le gendre, mais un autre propos, de la viande. Hier soir j'ai vu une expérience de danse là, où il y avait la viande qui était utilisée. Alors, bon, on pouvait penser c'est naïf, sauf qu'on pouvait convoquer Bacon, Guyotta et quelques autres, et puis tout d'un coup se rendre compte que ce que faisait la danseuse avec ce morceau de viande, ça disait une vérité immense sur le traitement du corps dans nos sociétés.
Philippe Lacoulabart en 2001, Mathilde Monnier, d'une part parce que c'est quelqu'un que vous avez lu, avec qui vous avez échangé, qui est aussi présent lorsqu'on pense à votre travail, et d'autre part parce que c'est une pensée intéressante ça. La danse comme une utopie, comme un moment, vous disiez tout à l'heure, les savoirs de la danse ont peut-être des choses à diffuser dans nos sociétés occidentales. Il dit « émergent des expériences de danse là où le corps ou les corps sont très abîmés ». Quand on pense à ce que vous faites à Camping, mais à plein d'autres choses, on se dit que c'est peut-être une idée qui pourrait être la vôtre. La danse comme une utopie, comme une réponse quasiment politique, une attention aux autres, au regard de ce que par ailleurs nous pouvons faire de nos corps.
Alors oui, juste un petit mot quand même sur Philippe Lacoulabart. D'abord, il a très peu parlé de la danse, donc je suis assez étonnée. Parce qu'on le sait tous, il était un fan de musique, de jazz. Donc en général, quand il parlait de l'art, il parlait ou de la peinture, ou de la littérature, ou du jazz. Il a très peu parlé de danse. Donc je suis assez étonnée de cet extrait déjà. C'est très touchant, parce que c'est effectivement quelqu'un que j'ai très très bien connu, qui était un homme incroyable. Et alors, je ne sais plus votre question.
Sur la question de l'utopie, de la danse comme une utopie. Ou comme une réponse à la manière dont, par ailleurs, on peut abîmer nos corps ou laisser nos corps s'abîmer dans le travail, dans la consommation.
Oui, sans doute que la danse est une réponse. Elle est, en tout cas, elle fait partie de, je dirais, mais presque tous les arts sont une réponse. Moi, je privilégierais pas que la danse, parce que je pense que quand on fait de la peinture, c'est aussi le corps. Quand on écrit, c'est aussi le corps. Il faut pas mettre dans le corps ce qui ne serait que dans le corps. Et voilà. Donc, je pense que c'est plutôt l'art qui est une réponse. Alors, c'est pas une réponse au sens comme un remède. Il faut surtout pas penser les choses comme ça, parce que alors là, ce truc d'art thérapie. Mais quand même, le fait que l'art soit pour l'individu, pour chaque personne, un endroit aussi où il peut se reconstruire, où il peut réfléchir, être dans un autre rapport au temps, c'est extrêmement nécessaire pour chacun. Après, la question du corps abîmé, du corps occidental, comme en parle Philippe, je dirais que c'est pas seulement le corps occidental, c'est-à-dire c'est les corps, aussi le corps africain, le corps aujourd'hui en Amérique du Sud. Enfin, je veux dire, c'est tous les corps aujourd'hui sont pris dans cette nouvelle mode de société qui abîme beaucoup le corps, oui, ça c'est sûr.
Et qui fatigue, hein. On entendait cette archive de 1966 à propos du yoga qui disait que cette pratique-là permettait de ne jamais descendre en dessous d'un certain seuil de fatigue de vivre, mais des corps fatigués de vivre dans le monde contemporain, on en voit plein. Mathilde Monnier, alors si la danse peut être un endroit... non pas de remède, mais d'autre part que ça, c'est intéressant. Vous disiez que vous avez travaillé à l'hôpital. Vous y avez trouvé quoi, justement, dans cette pas cette manière de remédier, mais peut-être d'être ailleurs avec les corps?
Justement, j'ai vu d'autres corps. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que il n'y a pas que le corps qu'on voit aujourd'hui, enfin le corps parfait qu'il faudrait qu'on construise avec du pilates et tout ça, c'est-à-dire avoir tous le même corps. Non, il y a aussi des tas d'autres corps qui sont des corps intéressants, qui sont des corps qui a beaucoup d'émotions, qui sont aussi voilà, aujourd'hui, on accueille notamment dans le camping une école qui est pas une école, qui est une compagnie de danse contemporaine de Madère qui s'appelle Danza Com Diferencia, donc qui sera invitée à danser avec Maria Laribotte à la rentrée. Et voilà, c'est des gens qui portent une émotion folle et c'est important qu'on porte notre regard là-dessus. Moi, je l'ai toujours intégré à mon monde, ça fait partie de mon monde. Je ne suis pas du tout dans un voilà, ce corps idéal qu'il faudrait avoir, qui est un espèce de corps contemporain non identifié, mais beau, musclé, long, je sais pas quoi. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'autres possibilités de corps.
Notamment jusqu'à vos pièces, hein. Vous dites l'avoir beaucoup intégré, mais on entend là la Coulabarthe, mais on sait que la lecture de Deligny ou même votre pièce Déroute, c'était aussi une manière d'être très frontalement près de ces questions-là, Mathilde Monnier. Ça voulait dire que pour vous, ça a toujours été... comment dire, indissociable, la danse et, pour reprendre les mots de la Coulabarthe, l'attention portée aux corps différents.
Oui, l'attention portée aux corps différents, et il ne faut surtout pas confondre un corps immobile et un corps qui bouge, c'est-à-dire en fait on a des gens qui sont très très beaux quand on les regarde comme ça statutairement, puis quand ils bougent, pouf, il n'y a plus rien, alors que il y a des danseurs, voilà, ils sont pas forcément très charismatiques comme ça, puis d'un coup, paf, ils se mettent en mouvement, et là il y a quelque chose de complètement surprenant qui se passe, et donc je pense que la danse permet justement à cette espèce de révélation de qui est pas forcément évidente immédiatement.
Et ça tient à quoi, cette révélation?
Ah, ça je sais pas, c'est mystérieux. C'est mystérieux, c'est oui, je sais pas à quoi ça tient. Je suis toujours en train de chercher.
C'est vrai?
Oui, parce que on est toujours surpris finalement de voir hier soir je regardais parce qu'il y a eu toute une sorte de fête africaine au CND, il y avait des danseurs assez jeunes, je sais même pas d'où ils venaient, enfin j'ai des quatre continents qui sont mis à danser, il y avait des choses incroyables. Puis il y en a forcément qui se révèlent plus que d'autres et qui ont une espèce de grâce au moment où ils dansent. Et voilà, on est transporté. Je sais pas si ça s'explique d'ailleurs.
Vous cherchez encore des danseurs, des corps nouveaux, des personnes nouvelles, parce que la danse que vous créez pour Please 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 sont des gens déjà très expérimentés, éventuellement même connus sur la scène du spectacle vivant. Votre œil est encore à la recherche de personnes nouvelles avec qui travailler, Mathilde Monnier?
Oui, on est toujours à la recherche de personnes nouvelles. Alors moi, je cherche jamais des corps, je cherche des gens. Je cherche des artistes, des personnalités. Et oui, bien sûr. Puis alors aujourd'hui, maintenant, les techniques ont été tellement développées que les danseurs ont un niveau dingue. Ils ont plusieurs techniques. À l'époque, on possédait deux techniques. Aujourd'hui, ils en ont je sais pas, 5-6 qui maîtrisent très bien. Donc c'est complètement hallucinant, le niveau des danseurs est dingue. Et oui, donc oui, on cherche toujours à rencontrer d'autres gens, bien sûr.
Il y a par exemple un moment dans cette grande manifestation camping qui s'appelle le marathon des écoles, où des jeunes gens du monde entier, ceux qui ont précisément participé à tous ces ateliers, enchaînent des solis. Et c'est un moment hyper beau parce que il y a plusieurs scènes entre guillemets, et puis il y a plein de corps avachis, spectateurs, danseurs, assis, debout, et d'un seul coup quelqu'un se lève et danse au milieu. Et c'est vraiment là, comme vous le disiez, la révélation. Il y a plein de gens qui apparaissent. Comment est-ce que vous nous raconteriez, par exemple, ces moments-là?
C'est des moments très précieux. Déjà, alors c'est vrai que dans le marathon des écoles, ce qui est génial, c'est qu'on rentre dans une salle et on a l'impression de rentrer dans un pays. Parce que, en fait, une école, c'est un pays. Et d'un coup, on a tout de suite, on capte tout de suite ce qu'est cette école. C'est-à-dire, on a une espèce d'énergie d'un petit groupe, d'une petite communauté qui s'est formée et qui déjà nous raconte des choses sur ce qu'ils sont en train de vivre. On n'a pas besoin de mots, ça se voit, ça se sent, ça se respire.
Un pays, mais au sens, vous voulez dire comme une sorte d'identité territoriale?
Oui, c'est-à-dire, c'est un pays, c'est pas un pays nommé, c'est-à-dire que d'un coup, on voit.
Ah oui, un lieu, quoi.
Un lieu, on voit quelque chose qui apparaît. Alors, ils viennent du monde entier, mais ils sont dans la même classe ensemble ou dans le même, je sais pas, au même niveau ensemble. Et d'un coup, ils ont créé, voilà, ils ont du commun, ils sont. Et d'un coup, on voit quelque chose de complètement, une sorte de planète, si c'est pas un pays, c'est une planète qui apparaît, une nouvelle planète, et puis, on la comprend tout de suite, on sent que c'est assez voilà, qu'ils se comprennent entre eux, il y a un langage, donc ça c'est génial parce qu'on passe comme ça d'un studio à l'autre, donc d'une planète à l'autre, et on les découvre et c'est complètement dingue parce que c'est une sorte de voyage incroyable.
Vous la créez avec qui et où aujourd'hui votre planète?
Je ne sais pas, parce que je vais la recréer en sortir du CND. Donc la première planète, ça va être sur cette création, donc avec Larry Bott et Thiago Rodriguez. Ça va être chaque création est une planète. Hein. Et voilà, là le moment où là, dès que je sors du CND, je vais être en répétition. Donc ce sera ça.
Et vous aimez ça?
Oui, j'aime ça. C'est à la fois angoissant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est toujours un exercice intellectuel très 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 physique, mais beaucoup intellectuel important, parce qu'on est complètement presque dans une cocotte minute, et il faut vraiment se mettre au travail, et c'est très puissant, très profond, donc on va être là-dedans.
Parce que je parlais de cette bande dessinée Danser après tout, et il y a plein de moments où justement, que ce soit des moments que vous racontez, des moments où passez, ou des moments présents, on vous voit être au travail, et on se dit que c'est une sacrée histoire quand même de partir d'un plateau où on ne sait pas ce qui va se passer, de réunir des gens, de parfois assister à leur errance ou à leur conflit. C'est quand même particulier comme moment, ces moments de création.
C'est très très particulier, c'est des moments très très privilégiés. Alors on est, bien sûr, quand on est dans le studio, on est en création, mais quand on est en création, on est un peu tout le temps en création, c'est-à-dire on pense là. Moi, je travaille beaucoup la nuit. Je rêve.
En dormant.
Je rêve, je fais beaucoup marcher la machine de nuit, et je me programme comme ça c'est souvent un espace très productif, en fait, la nuit, le rêve, il y a quelque chose qui se met en place, donc c'est presque toute la journée. Et oui, c'est des moments très 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 privilégiés, à la fois un peu souffrants quand même, faut pas croire que c'est drôle,
inquiet,
des jours inquiet, très inquiet. Et puis c'est des moments d'introspection très 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 forts, parce qu'il faut aller chercher en soi ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pas rapporté, et donc il faut vraiment laisser déposer un certain nombre d'espaces, de couches de soi-même.
Hier, on faisait entendre à notre invité une archive de Bertrand Blier qui disait que de film en film, en réalité, on disait des choses de plus en plus importantes parce qu'on disait des choses de plus en plus nues. Est-ce que vous diriez ça pour des pièces dansées, Mathilde Monnier?
Oui, je crois que c'est juste, je pense. Je crois qu'on est plutôt à enlever plutôt qu'à ajouter. Moi, en tout cas, je suis tout à fait. J'aimerais encore plus enlever. C'est-à-dire,
Mais enlever quoi, des filtres, bah, ou enlever des artifices?
Oui, parce que finalement, quand on fait des pièces, on s'en rend pas compte, mais on est beaucoup sous influence, c'est-à-dire on est des femmes sous influence aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, il faut s'en défaire. Il y a aussi l'attente du marché, je veux dire, il y a plein de niveaux de choses qui sont pas forcément des impensées, qu'on n'arrive pas à repérer. Et puis avec les années, on est un peu plus dégagé, donc on est un peu plus tranquille, ou intranquille, mais on arrive à prendre un peu plus de distance, et puis de se dégager de beaucoup de choses, de la réussite, du succès, de même si ça on connaît, on peut savoir faire, mais je veux dire...
Vous savez ce qu'attend le marché du spectacle aujourd'hui, quoi. Ce qu'on attend d'un spectacle de Mathilde, c'est vrai?
Pas de moi, mais je peux définir un truc un peu basique, carré, oui. On sait ce que le
vous
marché
pouvez
aime.
Le faire ou pas, par exemple, là, pour 2019?
Ah bah,
allez, saison 2020, qu'est-ce qu'attend le marché de la danse contemporaine?
Bah, le marché, ils attendent... Alors, le marché, le grand marché, je dirais...
C'est qui le marché? C'est les programmateurs?
Oui, c'est les programmateurs, c'est les salles de spectacle, c'est le public. C'est-à-dire, on danse plus vite. La question de la vitesse, c'est d'ailleurs vraiment intéressant.
Vous êtes en train de vraiment maltraiter votre micro.
Oui, je le tape, mais ça m'énerve. Mais oui, la vitesse, la musique, le format, beaucoup de danseurs sur un plateau qui dansent très rapidement, avec beaucoup de mouvements, sur une certaine type d'abstraction à la fois émotionnelle et abstraite. Je veux dire, bien sûr qu'on repère ce qu'est le marché, tout le monde le sait, tout le monde, on en connaît les ficelles. Voilà, mais c'est bien de les connaître, vaut mieux les connaître pour savoir après comment on se place par rapport à ça. Après, ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui reprennent toutes ces ficelles et qui font pas des pièces super intéressantes. Mais je veux dire, on sait ce que le public aime de plus en plus. C'est un peu comme les séries. C'est-à-dire les bonnes séries, ben, les gens qui savent faire des séries, ils ont les trucs pour faire les séries. On a les ingrédients. En danse, c'est pareil. Les ingrédients, on les a aussi.
Mais alors quoi, l'objectif, c'est de pas trop les utiliser quand on
non,
les connaît?
Non, c'est de les connaître. C'est simplement de les savoir. Après, chacun, hein, de les utiliser ou pas, pour faire le bon film, la bonne pièce. Non, il faut faire avec. On faut surtout pas faire comme si ça n'existait pas.
Faut surtout pas faire comme si ça n'existait pas.
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est ça aussi le métier, la technique, c'est que on va pas faire l'inverse. On va pas non plus se mettre à faire des trucs. Non, il faut. Voilà, il faut connaître un certain nombre, de paramètres. Mais après, faut être assez fair play avec soi-même. C'est-à-dire, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut quand même aller dans son désir, dans ce à quoi on croit.
Mais c'est ça, c'est voilà. Quand même ça, quand même, l'objet d'une création.
C'est ça, oui, j'ai pas dit que... Oui, bien sûr, l'objet d'une création, c'est à un moment donné de ma vie, voilà, j'ai cette chose que j'ai envie de faire, que j'ai besoin de faire, il y a une sorte
mais
de
nécessité. Mais je suis lucide sur le fait que je n'avance pas sans rien, quoi.
Voilà, je suis lucide sur le fait que je sais aussi ce que font les autres, je regarde... ce que font les autres danseurs. D'ailleurs, moi, je regarde beaucoup les autres chorégraphes. Je vais beaucoup au spectacle. Je vois beaucoup de choses extraordinaires. Donc, ça m'inspire aussi.
Please, le 5 septembre au Théâtre Vidy-Lausanne et ensuite une grande tournée dont vous n'avez même pas toutes les dates en tête. Mathilde Monnier, jusqu'au 28 juin à Paris-Pantin Camping. Du 24 au 28 juin, c'est à Lyon et à Taipei en novembre.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Bonne route.
Merci.
À la prise de son, c'était Jean-Michel Bernaud. Ce soir, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Valentin Rémy, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal de 22h sur France Culture. Et quand vous voulez, franceculture.fr, la page de Parler Temps qui court, le lien vers les archives, les musiques et même une petite enveloppe pour nous envoyer des mots doux. C'est bientôt la fin de l'année. On peut se le permettre. À demain! Close your eyes when you see red.
éteint.